D'être venu. Vous savez que nous vous aimons dans le Seigneur. Et c'est précieux de pouvoir collaborer ainsi à ce travail pour le Seigneur, par les dons différents que le Seigneur donne à ses enfants. Eh bien, Mahanaïm 80 continue, et dans cette soirée du 9 août, nous allons nous mettre à l'écoute du Fils de l'homme. Je ferai tout d'abord la lecture d'un psaume qui sera la toile de fond de notre méditation de ce soir. Psaume 8. Il est un psaume de David. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. On peut aussi traduire de ceux qui jouent encore. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ô Dieu, bénis ta parole, qu'elle pénètre nos consciences et nos cœurs, qu'elle ne puisse pas retourner à toi sans avoir produit tout son effet en chacune de nos âmes. Tu nous vois tous rassemblés dans ce lieu, tu nous connais tous nom par nom, tu sais tout de nous, de nos pensées les plus secrètes, les plus cachées, des sentiments de nos cœurs. Tu sais si en ce moment nous sommes heureux ou si nous avons de l'amertume dans l'âme. Nous voudrions que tels que nous sommes, nous puissions tous ici ressentir l'immensité de ton amour et découvrir que tu as le droit d'être aimé. Toi, notre Créateur, notre divin Seigneur, captive nos pensées, paralyse la puissance de l'ennemi, et que Satan n'ait aucune place dans cette salle, au nom et dans l'autorité du Seigneur Jésus, que ton esprit agisse en puissance. Donne la grâce pour parler et la grâce pour recevoir. Amen. Mes amis, si chaque matin nous évoquerons dans une courte méditation un texte proclamant la seigneurie du Fils de l'homme, son grand pouvoir et la nécessité absolue de son règne dans nos cœurs, mais aussi dans ce monde, pour que la création tout entière soit enfin délivrée de la servitude de la corruption à laquelle elle a été assujettie. Chaque soir, nous nous mettrons à l'écoute du Fils de l'homme et considérerons, comme nous l'avons annoncé dans le dépliant, l'un de ses droits. Mais avant même de parler de ses droits, nous croyons qu'il est nécessaire de bien découvrir l'identité de celui qui aimait à se nommer le Fils de l'homme, empruntant le terme que nous avons lu ce matin dans le prophète Daniel au chapitre 7, les versets 13 à 14. Nous avons vu que Daniel a la vision après les quatre animaux terribles, terrifiants. Il voit soudain quelqu'un de semblable à un fils de l'homme venant sur une nuée blanche, s'approchant de l'Ancien des Jours, et c'est à lui qu'on donna la puissance, la domination, pour établir un royaume qui ne passera pas, un royaume enfin humain sur la terre qui n'a connu que des règnes de bêtes, et qui dit bêtes, dit férocité et cruauté. Enfin, il y aura un règne humain dans ce monde. C'est le règne du Fils de l'homme. Jésus, comme nous l'avons déjà souligné, s'est souvent nommé le Fils de l'homme. Il ne s'est jamais nommé lui-même le Christ, c'est-à-dire loin, ou le Messie, sauf dans un entretien qu'il eut avec la femme samaritaine. Vous connaissez le passage, la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, dit-elle, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui répond, c'est la seule exception, « Je le suis, moi qui te parle. » À cette femme qui avait eu Saint Marie et qui vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Comme nous l'avons vu ce matin, Jésus a reconnu devant le Sanhédrin qui le jugeait être le Christ, le Fils de Dieu. Mais son témoignage dans ce moment même, son témoignage quant à lui-même, est résumé dans ces mots. Je vous le dis, dorénavant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il est certain que c'est une référence à Daniel 7 que Jésus fait dans ce chapitre 26 de Matthieu. Je dirais encore que c'est justement à la droite de Dieu, à la droite de la puissance divine, qu'Étienne, le premier martyr chrétien, s'écrit avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert. » Et Jésus, debout, à la droite de Dieu. Pourquoi debout? Parce qu'à ce moment-là, Dieu offrait encore aux Juifs qui venaient de crucifier le Messie une nouvelle possibilité de le recevoir. Le royaume que Jésus devait établir n'a pas pu commencer puisque le roi fut rejeté et crucifié par sa nation unie aux Romains. Mais comme Pierre leur disait à Jérusalem, à ces Juifs qui avaient crucifié le Christ, ce que vous l'avez fait dans l'ignorance. Alors, si vous vous repentez, Dieu enverra son Fils. Il a fallu que le ciel reçoive en attendant le rétablissement de toutes choses. Donc, le Seigneur était prêt à revenir. Après la Pentecôte, et il a offert cette occasion de se repentir une fois encore aussi. Mais hélas, vous savez comment ce peuple au Courède a répondu à cette invitation de l'apôtre Pierre, le grand confesseur de notre foi. Le peuple a répondu en commettant un nouveau crime, la lapidation d'Étienne. Cet homme jeune encore, plein du Saint-Esprit, et qui a témoigné devant le Sanhédrin, devant tous ces gens qui frémissaient de rage, il a témoigné de son amour pour son sauveur. Et tandis qu'il parlait, les gens qui le regardaient ont vu son visage resplendir comme celui d'un ange. Et bien malgré cela, malgré qu'ils ont eu une vision céleste sur le visage de cet homme, ils le lapidèrent hors de la ville dans ce Jérusalem où Jésus avait été crucifié. Et depuis ce moment-là, vous trouverez toujours Jésus assis à la droite de Dieu. Dans les actes, il est encore debout. Vous savez, il n'y a rien de trop dans l'Écriture. Tout a une signification. Alors, le royaume a été remis à plus tard. Mais il reviendra. À son heure, à son jour, le Seigneur reviendra, car il faut qu'il règne. Voyez-vous, pour ceux qui condamnaient Étienne, ils ne le verraient plus, ce Seigneur. Sinon, que venant sur les nuées du ciel, comme le juge de toute la terre. Mais l'homme plein du Saint-Esprit, lui, il voyait Jésus. Il a vu Jésus mourir en voyant Jésus, peu importe que nous soyons sur la rue, assassinés peu importe où nous nous trouverons, même sur un lit d'hôpital, pourvu que nous puissions voir Jésus, alors on peut fermer les yeux et mourir comme Jésus est mort. Car Étienne s'est souvenu de la mort de Jésus. Ayant un dernier regard sur ceux qui l'assassinaient, « Père, ne leur impute pas ce péché. » Comme Jésus sur la croix, alors qu'il était cloué, s'écriait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oui, si vous lisez les évangiles, vous aurez constaté que Jésus lui-même se nommait à maintes reprises le Fils de l'homme. C'est ainsi qu'il parlait de lui, c'est ainsi qu'il aimait à se présenter. Et cela est si vrai que dans Matthieu, je crois vous l'avoir déjà signalé hier soir, 32 fois, Jésus se nomme le Fils de l'homme. Dans Marc, 15 fois, nous trouvons à nouveau Jésus parlant de lui comme du Fils de l'homme. 26 fois en Luc, et si vous lisez l'évangile de Jean, vous trouverez 12 fois Jésus, qui est pourtant Fils de Dieu, et qui s'intitule le Fils de l'homme. Donc plus de 80 fois. Exactement 85 fois. Et je dirais que dans l'Apocalypse, et cela pourrait être complet, vous trouvez encore deux fois ce nom donné au Seigneur. Chapitre 1, verset 13, l'apôtre Jean, relégué dans l'île de Patmos, dans la journée dominicale, a une vision et il voit quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Et la description merveilleuse qu'il nous fait du Fils de l'homme correspond au Fils de l'homme de Daniel, correspond à ce Jésus que les trois intimes du Seigneur virent soudainement transfigurer sur la sainte montagne, alors qu'ils entendirent, sous la nuée glorieuse, la voix du Père disant, « C'est lui, mon élu, écoutez-le, bien nous désirons. » Dans ces soirées, être vraiment à l'écoute de l'élu de Dieu, et manger les paroles que nous entendrons de lui. Nous voudrions que ces paroles ne nous laissent pas intactes, mais nous pénètrent au plus profond de notre être et changent nos pensées, changent notre manière de voir et notre manière de faire, notre conduite tout entière dans ce monde. Car c'est cela que notre Père des cieux attend de tous ceux qui se réclament du nom de Jésus. Sinon, avec notre profession chrétienne, avec nos réunions, avec nos cantiques, avec nos prédications, nous ne sommes rien d'autre que les ennemis de la croix du Christ. Et l'apôtre Paul le disait en pleurant aux Philippiens, « Il y en a parmi vous qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Ils veulent parler du Seigneur aux autres et leur vie est en plein désaccord avec les pensées de Dieu qui sont exprimées clairement et pour tous les temps dans la parole de Dieu. Qu'on ne vienne pas nous dire que, puisque nous sommes en 1980, nous ne pouvons pas vivre comme au jour de Joseph. Joseph, au pays des hommes sans Bible, il avait une conscience droite, et quand il fut tenté de cette tentation si subtile à laquelle peu résiste, une femme mariée s'offrant à lui, il s'écrie « Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal devant Dieu ?» Je suis toujours impressionné par cette réaction d'un Joseph qui a été vendu par ses frères et qui pourrait trouver Dieu injuste, et pour une fois, lui qui n'est pas un homme de marbre ou de bois, a l'occasion d'avoir une jouissance, même si elle est passagère, il refuse. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal devant Dieu? Et pour avoir refusé, il sera condamné, jugé comme s'il avait commis ce crime de l'adultère. Elle sera 2 ans en prison. Voilà des hommes qui nous parlent, des hommes avec lesquels nous voulons encore vivre. Car c'est cela connaître l'histoire de Joseph, c'est vivre actuellement dans la compagnie de Joseph. Où que nous soyons, c'est vivre actuellement en la compagnie d'un Daniel, en plein dans le monde, et dans des situations difficiles, mais on ne fait pas comme les autres, on ne vit pas comme tout le monde, on a un témoignage. Et alors on peut peut-être accéder au plus haut poste dans le royaume, non pas parce qu'on a fait de la politique ou une campagne électorale, mais parce que Dieu l'a choisi, et parce que Dieu l'a placé là. Lui, le vendu, l'esclave, le prisonnier, comme le maître de toute l'Égypte, comme il en a été de même pour Daniel. Qu'on ne vienne pas mentionner Daniel et Joseph pour souligner que nous devrions tous faire de la politique et prendre nos responsabilités dans le gouvernement de ce monde. Ce n'est pas le temps. Nous gouvernerons ce monde, mais plus tard, quand celui qui a droit de régner régnera, mais tant que notre Seigneur est toujours crucifié, tant qu'il continue d'être encore sur une croix, nous ne pouvons pas nous asseoir sur un trône et accepter des positions élevé dans ce monde, en y ayant travaillé nous-mêmes par nos propres efforts. Si Dieu nous donne des responsabilités dans le monde, c'est une autre affaire. Et alors, on s'y trouve comme témoin fidèle du Seigneur. Oui, Jean a vu le Seigneur. Le Seigneur ressuscité est un dernier texte dans l'Apocalypse, au chapitre 14, nous montre exactement ce Fils de l'homme assis sur une nuée blanche, couronné d'une couronne d'or et tenant dans sa main une faucille tranchante qu'il n'est pas allé chercher à Moscou. Il a la faucille et il vient pour moissonner. C'est lui le Seigneur, c'est lui le grand juge. Il est venu une première fois non pour juger le monde mais pour sauver le monde. Mais il revient une seconde fois pour apporter le salut à ceux qui l'attendent, mais pour faire comparaître aussi tous les hommes devant lui et les juger selon l'attitude qu'ils auront eue à son égard. Lui, le don de Dieu. Qu'avez-vous fait jusqu'à ce jour du don de Dieu? Son Fils, l'avez-vous reçu? Nous aurons l'occasion, puisque nous méditerons sur l'Épître aux Hébreux chaque matin dans les ateliers, de retrouver encore une fois la mention du Fils de l'homme dans cet Épître. Cette mention qui est une citation de ce psaume 8 que nous venons de lire, et qui est employé en rapport avec Jésus, qui ne pouvait pas mourir, c'est ce que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, sans revêtir notre humanité. Il est devenu fils de l'homme, lui qui était fils de Dieu, il est devenu fils de l'homme, il a revêtu notre humanité uniquement pour pouvoir mourir. Et assumer jusqu'au bout la condition humaine. Là où le premier homme, Adam, avait fait faillite, le second homme qui venait du ciel allait racheter toute l'humanité et offrir sa vie parfaite, sa vie excellente d'homme. Il allait nous l'offrir pour qu'elle devienne notre. S'il a été fils de l'homme, c'est pour qui? C'est pour nous. Alors, nous avons en Jésus quelqu'un qui peut nous comprendre et sympathiser à toutes nos infirmités parce que toutes nos souffrances, il les a connues, mais il a triomphé en toute tentation et il nous offre, si nous le voulons bien, sa victoire. Ce n'est pas à nous à avoir la victoire par nos efforts, mais c'est à nous d'accepter sa victoire dans nos vies. Et c'est cela qui est merveilleux, car toutes les victoires, il les a eues en toute tentation, et même le plus grand ennemi de l'homme, qui est la mort, il l'a aussi vaincu. En assumant la mort, il est entré dans la mort, mais étant le prince de la vie, il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, et il est sorti triomphant du tombeau. De sorte qu'en Jésus, nous avons une victoire, et qui est aussi une victoire sur la mort. Non seulement sur le monde, sur la chair, sur le péché, mais aussi une victoire sur la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant tellement bien compris ces vérités, peut dire, mais nous sommes en toutes choses plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Frères et sœurs, mes amis. Ou bien, est-ce que vous vous dites, on a déjà entendu tout cela? Vous n'êtes plus touché par la parole de Dieu. C'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Dieu veuille que cette parole soit une épée à deux tranchants et qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transperce. Parce que si nous laissons cette parole opérer dans nos vies, il y aura ces transformations qu'au fond vous désirez, ces transformations après lesquelles tant de fois vous soupirez, ces transformations que vous demandez peut-être dans vos prières à Dieu, tout en disant, mais voilà, je ne suis pas exaucé, je n'ai pas assez de foi. Mais vous les aurez, ces transformations, si vous laissez le victorieux prendre la place dans votre vie. Alors, nous allons très brièvement considérer ce psaume 8 que je viens de lire et qui doit occuper vos pensées, non seulement dans ce moment, mais je l'espère dans le cours de cette nuit, même lorsque vous dormirez. Vous vous souviendrez que Jésus lui-même, parlant des psaumes, psaume, le jour de sa résurrection, a dit aux disciples d'Emmaüs que les psaumes parlaient de lui, qu'il était question de lui dans les psaumes, de sorte qu'on ne se trompe pas en cherchant à découvrir le Seigneur Jésus dans les psaumes. Vous connaissez tous, je pense, en tout cas le psaume 22e, qui commence par ce cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui a dit cela un jour, alors qu'il était entre le ciel et la terre ? Ce Fils de l'homme qui avait dit « il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Eh bien, quand il fut élevé entre le ciel et la terre, quand les ténèbres couvrirent toute cette création, ne pouvant plus assister à un tel spectacle, la création a frissonné d'horreur en voyant que son créateur, les hommes, le crucifiaient. Et alors les ténèbres sont venues à midi, en plein jour, un jour de ténèbres. Les rochers se sont fendus, la terre s'est mise à trembler, les sépulcres même se sont ouverts, et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Il s'est passé quelque chose à Golgotha, chers amis. Alors, est-ce qu'il se passera quelque chose à Mahanaïm dans nos cœurs en contemplant le Fils de l'homme? J'aime ce psaume. Vous le connaissiez? L'aviez-vous lu? Vous disait-il quelque chose, ce psaume de David? Si vous relisez les psaumes qui précèdent, vous verrez quel changement d'intonation nous trouvons au psaume 8. Quel ton calme, majestueux dans ces quelques versets. Ce psaume fait vraiment contraste avec les supplications, les émotions violentes exprimées dans les deux psaumes précédents, le psaume 6 et le psaume 7. Nous ne trouvons dans ce psaume 8 ni appel angoissé, ni même un indice de lutte, mais simplement la contemplation de quoi ? La contemplation des œuvres de Dieu. Est-ce que vous avez contemplé aujourd'hui les œuvres de Dieu dans le site si remarquable que nous avons le privilège d'habiter pour quelques jours? Est-ce que vous avez considéré le coucher du soleil, ce soleil qui descendait et qui étendait ses couleurs sur ces nuées, qui de blanche qu'elles pouvaient être devenaient soudainement orange ou rouge? Quelle splendeur et quelle paix dans ce calme, dans ce silence. Mais en même temps que vous voyez le psalmiste contempler encore les œuvres de Dieu, il dit, mais que ton nom, qu'est-ce que c'est son nom? Ben, c'est sa personne, c'est tout ce qu'il nous révèle de lui-même, et nous savons que toute la création parle encore à ceux qui ont encore des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Est-ce que vous avez entendu le chant d'un oiseau ici? Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu l'oreille assez fine pour entendre le chant de l'oiseau? Ou bien est-ce que vous n'entendez que les moustiques? Alors voilà votre vie, oh, ces moustiques, ces moustiques. C'est maringouin. Et on se plaint. On aurait pu entendre le chant d'un oiseau. Et si vous aviez écouté le chant d'un oiseau, l'oiseau serait venu, il aurait mangé le moustique. Dites-vous, si nous voulions un petit peu voir les beaux côtés de cette nature, en attendant que le Seigneur nous dise le pourquoi des moustiques. Il y a déjà des savants qui nous donnent des réponses, mais ils ont aussi leur utilité. Alors, soyons de ceux qui ne s'arrêtent pas justement seulement aux piqûres de moustiques, mais soyons de ceux qui contemplent les grandes œuvres de notre Seigneur. Mais alors, on voit dans ce psaume que, après avoir contemplé ces merveilles de la création, tout à coup, le psalmiste est tout étonné parce que il se rend bien vite compte de la position glorieuse qui a été faite sur la terre à l'une des plus faibles des créatures, des plus petites dans les créatures de Dieu. La vue de ce ciel étoilé, probablement que David l'avait du toit ou de sa terrasse, de la terrasse qui était sur le toit de sa maison à Jérusalem. Et alors, tout à coup, il pense, mais au fond, le maître de tout cela, le roi de la création, c'est qui? Oui, dans un sens, mais le vif-roi, si vous aimez mieux. C'est l'homme. Alors il dit, mais pour dominer sur toutes ces œuvres merveilleuses, mais qu'est-ce que l'homme? Il se pose la question, mais ce créateur, qu'est-ce qu'il avait dans la pensée de donner la gérance du monde à ce petit bonhomme? Nous croyons toujours très grand, très beau, hein, très fort, et pourtant, quand vous vous arrêtez, vous dites, mais qu'est-ce que l'homme? Et pourtant, c'est vrai. Il voit, le psalmiste voit les choses d'une façon idéale. Il ne pense pas à la chute de l'homme, à la condition dans laquelle l'homme s'est trouvé après la désobéissance au commandement de Dieu, mais il voit simplement le plan divin. Il a créé le monde et il a voulu mettre comme roi dans ce monde cette créature, l'homme, un être au bonheur duquel il désirait travailler. Voilà ce que nous devons comprendre en lisant ce psaume inspiré et qui fut donné à David, le roi prophète. Mais considérons plus en détail, si vous voulez, encore pendant quelques instants, les paroles de ce psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. La gloire de Dieu dans la création. Est-ce que vous êtes d'accord avec la louange de David? Est-ce que vous pouvez joindre votre voix? Je sais que j'aimais bien son titre qui en parle hein, de cela. Comment s'intitule-t-il? La nature parle d'un créateur. Hein? Je sais que vous l'aimez bien là. La nature parle d'un créateur. Alors donc, vous considérez la nature, vous êtes ému en voyant les merveilles de la nature. Alors, ce nom de Dieu, est-ce qu'il est magnifique pour vous? Le nom de Dieu résume pour notre esprit tout ce que Dieu nous a révélé de sa gloire, comme le dit Saint Paul, dans la splendeur de l'univers se reflètent les perfections invisible de Dieu. Romains chapitre 1er. Les perfections de Dieu se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Alors, nous apprenons à connaître Dieu dans la création. Et j'aime beaucoup ce verset 3 où il dit par la bouche des enfants et de ceux qui têtent ou qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Oh, que j'aime cette parole par la bouche des petits enfants. Je vous l'ai dit ce matin, le Seigneur dit, je te loue, mon Père, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à des petits-enfants. Les petits-enfants, ils n'ont pas ces préjugés que nous avons. Ils n'ont pas cette incrédulité et qui nous caractérise. Oui, aux incrédules, le psalmiste oppose les petits-enfants, et c'est vrai, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il faut devenir comme un petit enfant. Il faut avoir ce cœur d'enfant qui s'étonne encore, qui pose des questions et qui crie de joie en voyant les œuvres merveilleuses de Dieu. Quand il découvre une des œuvres de Dieu, que ce soit chez un animal ou que ce soit dans la campagne, dans les arbres de la forêt, quand il voit une source. Vous avez déjà vu des enfants s'extasier devant un beau paysage. Combien ça touche nos cœurs. Et même le psalmiste nous dit que dans le témoignage inarticulé d'un nourrisson, eh bien, Dieu tire sa gloire. Le langage des bébés, les heureux qu'ils peuvent faire, hein, c'est déjà un langage. Et qui loue le Seigneur. Ils ne blasphèment pas quand ils disent heureux. Hein. Non, non, ils commencent une louange. La louange au Seigneur. Et Jésus nous a montré combien cela était vrai. Les enfants, le jour d'une certaine fête à Jérusalem, quelle fête? Non, je regrette, un peu avant, la fête des rameaux. Quand le Seigneur a fait son entrée à Jérusalem, il y a eu un mouvement d'émotion dans la foule. Le Créateur était au milieu d'eux. Et il venait dans sa ville, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, le roi pacifique. Quel tableau! Et on avait coupé des palmes, et l'on criait, Hosanna, bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, ce que ça devait être! Quand on connaît un peu le mont des Oliviers, plusieurs y ont passé 8 jours, il y a un certain temps dans un camp Mahanaïm là-haut, sur ce mont des Oliviers, puis alors on descend là, vers la ville sainte, vers Jérusalem. Et puis, cette foule criait Hosanna. Puis Jésus arrive au temple, et alors les pharisiens commencent à le reprendre, mais est-ce que tu n'entends pas ces enfants? Parce que les enfants, justement, chantaient les louanges du Seigneur. Et le Seigneur leur fait cette citation. Mais vous n'avez jamais lu dans les psaumes que c'est par la bouche des petits-enfants et de ceux qui sont à la mamelle que Dieu a établi sa gloire. Eh bien oui, par la bouche des petits-enfants, il fait taire les adversaires. Il impose le silence à l'ennemi et aux vindicatifs qui tramait déjà la mort de Jésus. Et c'est ensuite au verset 4 à 9, que nous est soulignée la fonction de l'homme comme maître de la création. Le psalmiste s'étonne de la petitesse de l'homme que Dieu a pourtant fait maître de toute chose. C'est un peu moindre que les anges ou un peu moindre que Dieu. Pour quelle raison? Eh bien, il est créé à l'image de Dieu. Il a un commencement. Il n'est pas semblable à Dieu. Il est créé à son image. Mais, au fond, c'est le premier après le Seigneur. Il est avant les anges. Sa destination est plus élevée que les anges. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Voilà la pensée de Dieu au sujet de l'homme. Alors on peut bien comprendre le pourquoi de la révolte de l'ange. Quel ange? Lucifer, qui est devenu Satan et qui s'est opposé à la création de cet homme. Et qui allait le supplanter. Comment Dieu allait faire un être au bonheur duquel il allait travailler et qui serait semblable à qui? À l'image de son Fils. Donc, plus haut que les anges. Nous étions créés dans la pensée de Dieu pour parvenir à la gloire du Seigneur, prédestinés à être semblables à son Fils bien-aimé, le Fils éternel, dont nous aurons l'occasion encore de nous entretenir. Et alors, en plus de cela, tout avait été mis sous ses pieds, relisez Genèse 1:26. Il doit dominer sur la matière, il doit assujettir la terre, remplir la terre et l'assujettir. Et Dieu lui donne pouvoir sur tous les animaux, de sorte que l'homme ne devrait pas avoir peur des animaux, mais devrait les dominer. Vous avez donc dans ce psaume la pensée de Dieu à l'égard de sa créature, ce qu'il voulait pour l'homme, domination de la matière et domination de tous les êtres, qu'ils soient dans les cieux ou qu'ils soient dans la mer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense devoir la vie à un de ces textes un jour que j'ai été attaqué dans la mer là, autour du milieu de la Jamaïque par un poisson terrible et j'ai pensé c'est lui ou moi. Et alors, dans sa grâce, le Seigneur m'a dit sous l'eau, j'avais pas ma Bible avec moi, j'avais seulement mon masque. Qui dominera sur les poissons de la mer? C'est lui ou moi? Et alors, au lieu de fuir, il faut aller fondre en le regardant dans les yeux. C'est lui qui parle. Ben, je ne recommencerai pas. mais c'est cette parole qui m'a été donnée là. Qui dominera sur les poissons de la mer? Qui est-ce qui devrait dominer? Lui ou moi? Alors que le Seigneur nous encourage, lisez la parole. Elle vous sera redonnée dans un endroit peut-être tout à fait inconnu pour vous. Vous n'y pensiez pas, vous seriez dans cette situation, et tout à coup une parole sera là pour vous donner une force et une confiance dans votre Dieu. C'était ça le premier homme. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Mais nous ne voyons pas cela aujourd'hui. Pour quelle raison? Pour quelle raison nous ne voyons pas cela? Parce qu'il y a eu des obéissants. Et ce sont souvent les animaux qui règnent sur les hommes. On a peur des animaux. Et alors, pour comprendre tout ce psaume, et c'est la fin, il ne faut saisir que David était animé de l'esprit du Christ et de l'esprit prophétique. Et de qui est-il question, là, essentiellement? Puisque nous constatons bien que ce n'est pas nous-mêmes qui réalisons cela. Qui est-ce qui a réalisé cela? Qui est-ce qui a dominé sur tous les éléments, même déchaînés de la création? C'est un homme qui s'appelait Jésus, qui pouvait marcher sur les eaux, qui pouvait calmer la tempête, dire au vent « tais-toi » et à la mer « calme-toi », à un tel point que ceux qui étaient avec lui dans sa barque s'écrient « mais qui donc est celui-ci ? » Eh bien, c'était le Fils de l'homme. Il était là, ce qu'ils auraient pu être, des gens sans peur, ni frayeur, parce que dépendants de leur Père céleste et sachant que le Père les exaucer toujours. Puisque le premier Adam a manqué le but, Dieu s'incarnera et réalisera dans le second homme, venu du ciel, sa pensée au sujet de l'homme. Et c'est là que nous rejoignons
l'Épître aux Hébreux, où nous trouvons ce verset appliqué au Seigneur. Tu l'as fait un peu moindre que les anges, à cause de quoi? De la passion, de la mort. Si Jésus est mort, eh bien, c'est parce qu'il avait revêtu notre humanité. Et s'il y a eu des doutes au sujet de la divinité de Jésus, c'est qu'on l'a vu réellement un homme. Il a été fatigué, il a pleuré, il a eu des émotions, il a été angoissé, il a mangé, il a eu faim, il a dormi, il a eu soif, il a bu, il a été un homme comme nous en toutes choses, sauf qu'il était sans péché, parce qu'il était resté dans la dépendance absolue de son Père des cieux. Jésus a été l'homme par excellence, c'est pourquoi ce psaume, prophétiquement, s'applique à celui qui l'a réalisé, à Jésus. Toutefois, nous ne voyons pas encore que tout lui soit assujetti. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas encore demandé à son Père la domination du monde. Mais demain, probablement, si le Seigneur nous conduit, nous allons lire un autre psaume où nous entendrons le Père lui dire « Demande-moi et je te donnerai la domination du monde ». Et à ce moment précis où le Seigneur demandera la domination du monde, elle lui sera donnée. Et tous les royaumes de la terre seront alors assujettis à son pouvoir. Il mettra tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui devait être vaincu, c'était la mort. La mort a déjà été vaincue, mais ce qui arrivera au retour du Seigneur, c'est que la mort sera abolie. Elle est vaincue, mais pas encore abolie. Elle règne encore, mais elle est déjà vaincue, et nous en avons le témoignage dans la résurrection de Jésus-Christ. Mais un jour, les hommes ne mourront plus. Le Christ est ressuscité. Alors, étudiez, et c'est ma dernière citation, je le pense, étudiez le chapitre 1, le chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, et vous verrez quelle lumière l'Écriture nous donne sur un autre passage. 1 Corinthiens 15, il est dit, verset 25, « Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Elle est déjà vaincue. Ô mort, où est ton aiguillon ? Lisons-nous dans ce même chapitre. Ô sépulcre, où est ta victoire ? Et plus loin, il est dit au verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Et qui est le second homme? C'est Jésus. Mais qu'est-ce que nous deviendrons, nous? Les descendants du premier homme ou du second homme? Du second homme. Et c'est cela que vous devez comprendre et que je dois comprendre avec vous. Donc, nous avons une vocation terrestre ou céleste. En Jésus, nous avons une vocation céleste. Alors, chantons les psaumes. Chantons de tout notre cœur les louanges du Seigneur, car notre vocation est une vocation céleste. Et il est dit encore, tel est le verset 48, et le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Que c'est beau. Ça ne vous dit rien? Qui est le Fils de l'homme? Jean 12, 34, c'était la question qu'on posait. Mais qui est le Fils de l'homme? Le savez-vous? C'est Jésus. Ne trouvez-vous pas qu'il a droit à notre ami? Il nous a tant aimés. Il a droit à notre ami. Est-ce qu'il l'a, votre ami? Pas de lèvres, mais cet amour total qui se réjouit avec la vérité. Cet amour qui dit, Seigneur, je ne peux plus vivre à côté. Je ne peux plus me contenter de cette marche boiteuse. Un pied dans le monde, un pied dans le témoignage. Je veux avoir les deux pieds dans le même sentier. Seigneur, conduis-moi. Je ne peux plus vivre moi. Ce n'est plus moi qui peux vivre. Je me hais. Je suis dégoûté, je suis écœuré. Et vous l'avez, cet écœurement de vous-même? Ou bien faut-il vous donner la nausée de Jean-Paul Sartre pour que ça commence? Puisque la parole n'a pas encore réussi à vous donner cette nausée de vous-même. Pour que vous puissiez vous quitter. Parce que si vous voulez être au Seigneur, il faut se quitter. Et si vous voulez que la vie du Seigneur se manifeste dans votre vie, il faut lui abandonner la vôtre. Et alors lui meurt avec la vôtre. Et puis vous, vous pouvez dire avec la sienne, transformé à son image et à sa ressemblance de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, non pas par nos efforts, mais en le contemplant et en le laissant se manifester en Christ. Oui, nous connaissons la véritable identité du Fils de l'homme. C'est ton Fils bien-aimé, au Père, qui étant de condition divine, n'a pourtant pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, qu'il l'était, mais il s'est anéanti lui-même. Il a revêtu notre condition humaine. Il a été trouvé ici dans le figure comme un homme. Ô Seigneur, nous voulons te bénir. D'être venu du ciel, toi l'homme, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel, et qui est dans le ciel maintenant, et si tu nous permets de vivre la semaine qui va s'ouvrir demain, nous allons savoir quelque chose de ce que tu fais dans le ciel, de ce que tu es actuellement en train de faire. Et ce soir, nous savons que tu intercèdes pour nous. Que tu regardes chacune de nos âmes et tu voudrais avoir un entretien personnel avec chacun de nous. Ce n'est pas un frère que nous devons rencontrer, ce n'est pas un prédicateur dont nous avons besoin maintenant, c'est de toi-même. Donne-nous de ne pas avoir peur d'être seul avec toi. Donne-nous de ne pas vouloir pousser quelqu'un. Mais donne-nous d'oser avoir un contact avec toi, pour connaître enfin l'immensité de ton amour, et savoir que tu as un droit sur nos cœurs, le droit d'être aimé par-dessus tout autre chose. Seigneur, fonde-moi au cœur, connais mon cœur. Est-ce qu'il y a un objet que j'aime plus que Jésus? Par lui, c'est ton nom. Et conduis-nous à cette libération et que ce que nous estimions autrefois comme des gains, nous puissions tout à fait saisir que ce sont des pertes. Et que nous puissions considérer tout ce qui nous plaisait peut-être jusqu'à maintenant, tout ce qui avait tant de place dans nos cœurs, comme des ordures. Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a eu des ordures, parce qu'il y a encore des ordures dans mon cœur. Montre-moi cela, pour que j'en sois délivré, et qu'il n'y ait plus que toi. Toi, Seigneur, et le parfum de ta connaissance. Que le monde sache que tu n'es pas loin, très loin, au ciel, mais que tu es dans les cœurs des hommes. Qui se dit chrétien, qui se réclame d'Église. Donne-nous de ne pas avoir seulement des plaques sur nos automobiles qui parlent de Jésus. Que nous n'ayons pas seulement des badges qui parlent de Jésus sur nos chandails. Mais que Jésus soit dit dans des êtres tranchés.